d'expérience à différents niveaux, on utilise la mémoire de ces expériences. Or, la mémoire des expériences est bien plus en puissance que la réalité des expériences vécues actuelles, ce qui semble contradictoire pour saisir l'être en acte. Qu'est-ce qui vous a dit que c'était la mémoire des expériences?
On l'a jamais dit. Voilà. Je dis c'est l'expérience.
La mémoire des expériences n'est pas l'expérience. Si vous ne faites pas actuellement l'expérience, que peut induire? C'est ça qu'il faut comprendre. Il est évident qu'objection, alors, la mémoire des expériences, c'est pas le souvenir des expériences. J'ai l'expérience actuelle que je suis éveillé. C'est une expérience actuelle. J'ai l'expérience actuelle que je peux contempler, que je contemple. J'espère. Donc c'est pas la mémoire. C'est parce que là, vous comptez dans le temps ce qui, d'une certaine manière, est au-dessus du temps. D'expérience à différents niveaux, on utilise la mémoire de ces expériences. Or, la mémoire des expériences est bien plus en puissance que la réalité des expériences vécues actuelles, ce qui semble contradictoire pour saisir l'être en acte. Qu'est-ce qui vous a dit que c'était la mémoire des expériences?
On l'a jamais dit. Voilà. Je dis c'est l'expérience.
La mémoire des expériences n'est pas l'expérience. Si vous ne faites pas actuellement l'expérience, que peut induire? C'est ça qu'il faut comprendre. Il est évident qu'objection, alors, la mémoire des expériences, c'est pas le souvenir des expériences. J'ai l'expérience actuelle que je suis éveillé. C'est une expérience actuelle. J'ai l'expérience actuelle que je peux contempler, que je contemple. J'espère. Donc c'est pas la mémoire. C'est parce que là, vous comptez dans le temps ce qui, d'une certaine manière, est au-dessus du temps. Votre intelligence, elle ponctue autrement. Bon, ce recours à la mémoire n'est-il pas dû fait que fondamentalement, la mémoire cherche davantage à se délier du temps pour passer du devenir à l'être. La mémoire est plus dans le temps que dans mon expérience métaphysique. Plutôt qu'à seulement mémoriser les faits ou l'enchaînement d'événements passés. Donc c'est ce que je refuserais, que c'est la mémoire qui intervient. L'induction synthétique analogique présuppose des expériences actuelles. Ces expériences actuelles, je les ai faites, je peux toujours les refaire. C'est pas comme des expériences qui ont eu lieu. Vous voyez ? Des expériences tout à fait particulières. Non, c'est pour ça que c'est l'expérience les plus simples. Que je refais constamment, et donc elles sont toujours actuelles. C'est pas ma mémoire qui intervient. Si c'était la mémoire qui intervient, je reprendrais le point de vue de la réminiscence, vous voyez. Je prendrais la réminiscence. Alors ce serait très très bien, mais ce n'est pas la mémoire. Que la mémoire joue un rôle, c'est bien évident. Ma mémoire joue dans toutes mes expériences comme mon imagination. Mais ce n'est pas. C'est ça qui est très délicat à bien préciser. Ce n'est pas la mémoire qui me donne ces expériences, c'est la réalité que j'expérimente qui est source pour moi de ces expériences. Et la mémoire m'aide à les vivre plus. Si je prends la mémoire au sens aristotélicien, si je prends la mémoire au sens augustinien, alors, à ce moment-là, je pourrais dire que la mémoire joue. Alors, au sens augustinien, c'est l'esprit, dans ses profondeurs de l'esprit, qui dure. Qui fait que, d'une certaine manière, grâce à mon esprit, je suis au-delà du temps. Et les expériences que j'ai faites hier ne sont pas mémorisées, dans le sens mémoire aristotélicienne, mais sont actuelles. Et l'esprit est au-dessus du temps. Et alors, d'une certaine manière, vous comprenez, l'expérience que je fais, qui est l'intelligence liée aux sensations, cette expérience, elle me fait toucher quelque chose qui est actuel. qui d'une certaine manière n'est pas dans le temps, puisque c'est actuel. C'est pas le devenir. Si c'était l'expérience du devenir, ce serait tout à fait différent. Le pantareil, hein, tout cool. Vous avez mémoire d'être descendu dans le fleuve hier. Et vous avez mémoire que si vous descendez dans le fleuve aujourd'hui, il sera plus le même. Alors ça, la mémoire joue. Parce que c'est le pantareil, tout cool. Alors la mémoire joue. Mais si votre expérience touche la réalité, la mémoire ne joue pas. Parce que je suis devant une expérience qui n'est pas mesurée par le temps. Elle est ce contact direct que j'ai de la réalité qui est. Et c'est ça le point de vue délicat. Hein. Je dépasse. Qu'est-ce qui est dans le temps? C'est le devenir, ce n'est pas l'être. Et dans la mesure où mon intelligence, par le jugement d'existence, touche la réalité en tant qu'elle est, je suis au-delà du devenir. Ce n'est pas l'expérience du devenir. L'expérience du devenir, évidemment, elle est toujours mesurée par le temps. Et donc, celle-là, je peux m'en souvenir. J'ai mangé un gâteau merveilleux hier, c'est de l'ordre du devenir, ça. Alors, je peux m'en mémoriser, n'est-ce pas, à la manière de Proust. Alors, je me mémorise ce gâteau et du goût excellent de ce gâteau. Mais ce n'est pas ça l'expérience philosophique. Je n'expérimente pas, je ne fais pas l'induction de l'acte à partir d'une mémorisation d'un gâteau mangé la veille. Non, c'est l'expérience actuelle de la réalité. Je touche le réel. Et ce réel, il est. Et dans la mesure où il est, vous voyez, il y a un toucher qui dépasse la mémoire au sens aristotélicien. Alors, la mémoire au sens augustinien, la mémoire au sens des néoplatoniciens, alors je comprends que cette mémoire, elle est liée à la vie de l'intelligence. C'est peut-être pour ça, du reste, qu'ils ont inventé la mémoire, vous voyez. C'est pour essayer d'expliquer quelque chose qui, d'une certaine manière, est au-delà du temps par l'expérience même que j'ai de ce qui est. Quand j'ai l'expérience de ce qui est, je touche quelque chose qui est au-dessus du devenir. Et donc cela dure. Très curieux. La vie de l'esprit dure. L'esprit de l'esprit n'est pas ponctué par une espèce de succession. Ça, c'est le point de vue du devenir. C'est le point de vue psychologique qui est comme ça. Mais le point de vue profond est au-delà. Et il touche la réalité. Donc il est au-delà de cette succession. Douche froide, douche chaude. Vous voyez, ça c'est la succession dans le devenir. Ça, il faut arriver petit à petit. Il faudrait être intéressant à prendre comme objection par rapport à l'expérience proprement dite. Cette objection joue au niveau du devenir. Elle ne joue pas au niveau du jugement d'existence. Alors c'est intéressant pour toujours approfondir le jugement d'existence. On a beaucoup de peine, vous savez, ça. Plus je vois au point de vue là, ce que nous sommes, nous avons beaucoup de peine de redécouvrir cet état natif de l'intelligence qui découvre ce qui est. Ça explique du reste pourquoi la métaphysique est perdue. Si le jugement d'existence est oublié, la métaphysique est perdue. Vous tombez dans les idéologies. Donc c'est la corruption de la métaphysique. Et c'est ce jugement d'existence qui est perdu parce qu'au fond, on a de la peine à rejoindre ce qui est et que instinctivement nous restons dans l'ordre du devenir. Bon, je n'insiste pas plus, mais n'hésitez pas à poser vos objections, même si je réponds rapidement comme ça, c'est quand même pour situer, je situe hein, comme ça. Nous allons continuer, parce qu'il faut quand même continuer, nous allons continuer à essayer de comprendre à partir de l'induction de l'acte, je ne reviens plus sur l'induction de l'acte. Je vous ai montré comment on peut y parvenir, mais je ne peux pas vous donner l'intelligence de l'induction. Donc, essayez tous les jours, lorsque vous vous réveillez, d'avoir l'expérience de ce que représente ce fait de dormir et d'être éveillé. De toucher quelque chose qui, autour de vous, résiste à vos rêves. Ça résiste au rêve, le réel. Je me réveille. Alors ça, ça l'aperçoit surtout quand on est dans les cauchemars. Et puis, s'apercevoir que de fait, on est capable de contempler et qu'on contemple. Alors, évidemment, il faut autant que possible contempler, parce que tant que vous n'avez pas contemplé, vous restez dans la capacité de contempler. Et là, vous ne comprenez pas les deux états différents. Mais on contemple assez vite. La contemplation se fait par le point de vue, justement, du fait que la contemplation philosophique ou la contemplation esthétique, parce que je peux prendre la contemplation esthétique, évidemment, ça vaut surtout pour la contemplation métaphysique. Alors, nous allons maintenant passer à une réflexion philosophique, je ne dis pas critique, on reste au niveau métaphysique, on n'est pas au niveau critique. La réflexion sur le fruit obtenu par cette induction. Autrement dit, si vous voulez, essayons de réfléchir sur, philosophiquement, sur ce qu'est l'être en art. Qu'est-ce que c'est ? De cette saisie, je suis passé de ce qui est en acte, à l'être en acte. Ce qui est en acte, jugement d'existence, et le passage à ce qu'il y a d'ultime dans ce qui est, dans l'être. Autrement dit, la saisie ici d'un principe. La saisie ici d'un principe ultime. Qu'est-ce qui... C'est vraiment à partir de là, je me suis posé l'interrogation, qu'est-ce qu'il y a d'ultime dans la réalité ? Et pour saisir ce qu'il y a d'ultime dans la réalité, vu du point de vue de l'être, j'ai pris exprès des situations extrêmes, des états d'imperfection et des états de perfection. J'ai pris exprès cette diversité de ces états pour essayer de saisir ce qu'il y a de commun à travers ces différents états. Celui qui dort et celui qui est éveillé. Celui qui est capable de contempler et qui contemple. Celui qui est capable de fabriquer une maison, d'édifier une maison et celui qui l'édifie. Et ainsi de suite. Tous les états partent, toutes les tensions particulières. Vous voyez, le drame de la condition humaine. Parce qu'au fond, c'est le drame de la condition humaine. Pensez à Malraux, c'est pas le drame de la condition. Pensez à Nietzsche, c'est le drame de la condition humaine. Le drame de la condition humaine, c'est de montrer que je possède en moi des états extrêmes. Deux états extrêmes. C'est très curieux, je possède en moi ces deux états extrêmes. Et c'est pour ça que c'est dramatique comme situation. Parce que si je ne possédais qu'un seul état, ce ne serait pas dramatique. Mais je possède en moi ces deux états. La capacité de faire toutes les bêtises et la capacité d'atteindre des sommets. Et ça passe de l'un à l'autre, avec une rapidité folle, puisque je ne suis pas dans le temps. Oui. Dans le devenir, ça mettrait du temps à changer. Mais ça, je ne suis pas dans le temps. Oui. Passage de la vie à la mort, si vous voulez. Parce que le passage de la vie à la mort, c'est aussi ça. C'est un passage de deux états tout à fait différents. Il y a une capacité en nous, à chacun d'entre nous, la capacité à l'égard d'une honnête par rapport à mon être, par rapport à ce que je suis. Cette capacité brutale qui est, comme disaient les anciens, in instanti, ce que dit saint Thomas. Ce n'est plus dans le temps, c'est in instanti. Ce passage se fait in instanti. Et c'est pour ça que c'est toujours brutal. Et c'est pour ça que c'est toujours le drame. Vous voyez ? Parce que quand ça va lentement, il n'y a pas de drame. C'est quand c'est rapide. Alors quand c'est rapide, le passage de l'un à l'autre, c'est dramatique. C'est ça le drame. Et si j'avais le temps de m'y préparer, alors à ce moment-là, il n'y aurait pas de drame. Le drame, c'est le passage rapide. Je possède en moi ces deux états. Et ces deux états sont au-delà du devenir. Alors prenez tous les états selon le drame qui est en vous. Hein. Parce que chacun d'entre nous, nous cachons un drame. Biologiquement, psychologiquement, intellectuellement, au point de vue artistique, nous possédons tous en nous une capacité de drame. Quand vous les unissez tous, ça fait quand même quelque chose d'assez dramatique. Et au fond, c'est l'assemblage de tous ces drames que le philosophe rassemble pour essayer, à partir de là, de comprendre mais qu'est-ce qui explique ce drame ? Qu'est-ce qui est au cœur de l'être ? Tel que je le vois, tel que je l'expérimente, cette réalité qui est l'homme. Vous voyez, on pourrait très bien, parce que ce serait intéressant, ça aiderait peut-être nos modernes, c'est-à-dire nous, ça aiderait nos modernes de commencer l'induction par un jeu psychologique, je ne dis pas un psychodrame, c'est pas, mais un jeu psychologique du drame que nous possédons en nous. Vous voyez, et on essaierait d'ordonner ce drame. Et on essaierait de comprendre qu'est-ce qui est le principe de cela. Alors ça nous aiderait à comprendre ce pas extraordinaire que nous faisons. Je ne dis pas que saisir l'être en acte, c'est l'antidrame. Si j'étais Malraux, je dirais ça. Je dirais que saisir l'être en acte, c'est l'antidrame. Dès que j'ai saisi l'être en acte, le drame cesse. Parce que le drame, c'est de posséder en moi l'état de puissance et l'état d'acte. Et dès que je saisis l'être en acte, le drame cesse. Donc je pourrais très bien dire, dans un style de Malraux, c'est une manière de baptiser la noétique aristotélicienne, n'est-ce pas ? Alors on la baptiserait en disant l'antidrame. Alors ça, ce serait merveilleux. Hein. Je vous donne le secret de l'antidrame, c'est de saisir l'être en acte. Et quand vous saisissez l'être en acte, vous êtes au-delà du drame. Vous faites un bond particulier. Alors le danger, ce serait de rester à un niveau psychologique. Hein. C'est ça le danger, c'est pour ça que je ne le fais pas. Mais on peut très bien, par mode, au point de vue, si vous voulez, miséricorde par rapport aux intelligences blessées. N'est-ce pas ? Alors on pourrait dire que c'est l'antidrame. On saisit l'être en acte comme antidrame. C'est-à-dire au-delà de cet état dramatique qui est en moi. C'est important. Dès que vous détectez en vous un état dramatique, pensez à l'induction de l'acte. C'est un remède extraordinaire pour les états dramatiques. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes au-delà, dans la mesure même où vous êtes capable de le faire. Évidemment, ce n'est pas toujours commode, parce que quand on est dans le drame, on est au niveau passionnel, et le niveau passionnel psychologique, c'est qu'il y a beaucoup d'écume, et à ce moment-là, parce qu'il y a beaucoup d'écume, comme vous êtes myope, vous avez des lunettes, vous ne voyez plus rien du tout. Si nous n'étions pas myopes et que notre intelligence n'avait pas cette myopie, les écumes ne nous occuperaient pas. Parce que c'est un peu d'importance. Mais au fond, les écumes retombent sur nous, ordinairement. C'est pour ça que les états dramatiques, on a de la peine à saisir le point de vue métaphysique. Mais si on était très métaphysicien, si l'habitus métaphysique était en nous très fort, ce serait une chose merveilleuse de dépasser tous les drames, l'être en acte. C'est merveilleux. C'est l'antidrame. C'est cette petite lueur métaphysique qui dit l'être en acte. Et l'être en acte, il est en moi, c'est ça qui est mieux. Parce que s'il était en dehors de moi, ça ne me pacifierait pas. Mais il y a l'être en acte en moi. Et donc ça me pacifie. Ça me pacifie et ça me permet de dépasser cette espèce de tension violente dans laquelle je suis. Je dis ça, c'est parce que c'est une autre manière, vous voyez, de toujours, je crois qu'aujourd'hui, il faut accompagner la philosophie de la psychologie, vous voyez. On est tellement dans un milieu psychologique qu'on a besoin de ça. Alors, ce milieu psychologique, c'est tout simplement les états. Alors, quand on prend les états de l'être parfait, de l'être imparfait, hein, c'est très facile à comprendre. L'état d'imperfection, l'état de perfection. Posséder en soi ces deux états, c'est ça le drame. On ne peut pas définir mieux le drame que posséder en vous un état de perfection, un état d'imperfection, avec toujours les possibilités de régression. S'il y avait une possibilité de progrès, il n'y aurait pas de drame. L'évolution comme telle, dans sa grande courbe, supprime le drame. Mais quand on la regarde de près, on voit qu'il y a, on avance de deux pas, on en recule de trois. Alors c'est quand même fameux. Alors si avec du progrès, le progrès comme tel, le mythe du progrès, eh bien, n'est pas dramatique. C'est une manière de supprimer le drame du reste. Mais ce n'est pas l'être en acte. Parce qu'au fond, en réalité, il y a constamment ce va-et-vient, ce flux et ce reflux. Et c'est ce flux et ce reflux, cet état d'imperfection qui semble emporter toujours vers l'état de perfection. Alors vous semblez toujours être dans un état de régression. Et c'est cet état de régression qui fait que l'état de perfection semble comme être entièrement battu par l'état d'imperfection. Et alors c'est ça qui est dramatique. Alors quand vous découvrez métaphysiquement que l'être en acte est victorieux d'être en puissance, de Ramsès. C'est le beau ciel merveilleux. Là, vous êtes en face des nuages, n'est-ce pas ? Des très, très nuageux, parce que plus vous voyez la tension entre les deux, plus c'est nuageux. Et plus vous dépassez, alors, merveille, l'être en là. C'est bon d'essayer de le comprendre comme ça, vous voyez, ça nous aide pour le communiquer aux autres. Bon, une fois que j'ai découvert cet être en acte, donc mettez cet antidrame, n'est-ce pas, cette possibilité que j'ai. Je réfléchis au plan philosophique pour saisir qu'est-ce que c'est que cet être en acte. Il faut le saisir. Qu'est-ce que c'est que cet être en acte? Qu'est-ce qu'il y a eu comme dépassement? Vous voyez, le dépassement inductif est un dépassement qui se fait d'une manière si rapide, instantané, dans un instant. Et c'est vrai, ça, c'est très vrai. Ce n'est pas du tout le raisonnement déductif où il y a des paliers que je peux, sur lesquels je peux m'arrêter. Dans l'induction, je ne peux pas m'arrêter. Si je m'arrête, c'est fini. Je suis obligé de partir du point de départ, ces états dramatiques que je saisis en moi, et sous le point de vue de l'interrogation, qu'est-ce qu'il y a d'ultime dans l'acte, qu'est-ce qu'il y a d'ultime dans l'être, je saisis d'être en acte. Bon, donc ça se fait très rapidement. Et c'est pour ça que j'ai besoin de réfléchir sur les résultats obtenus. Et réfléchir sur les résultats obtenus n'est pas la critique. C'est l'auto-lucidité métaphysique. Je suis lucide dans ma démarche métaphysique. Parce que ce résultat, cet être en acte, demeure toujours lié au point de départ. Ces deux états, état d'imperfection, état de perfection. Je suis toujours lié à ça. Et pourtant, je le dépasse. Alors, je peux essayer de comprendre qu'est-ce que ça représente. Bien, je crois qu'on peut dire en premier lieu que l'être en acte dépasse toute détermination. C'est ça le point de vue le plus délicat. Autrement dit, saisir la différence de l'être en acte et de ce que représente la forme. Ça, c'est un très gros problème. On l'a déjà posé, si vous voulez, au point de départ. Mais maintenant, nous le posons à l'arrivée. On l'a posé au point de départ pour voir comment la découverte de la substance, la découverte de l'ousia, n'épuisez pas l'expérience que j'avais de ce qui est. Je ne peux pas ramener l'expérience ce qui est à l'ousia, à la découverte de l'ousia, c'est-à-dire la substance. Il y a quelque chose en ce qui est qui n'est pas saisi par la substance. Il faut donc essayer de comprendre, quand j'ai saisi l'être en acte, quel est ce dépassement qui s'est fait ? Au fond, la différence entre l'être en acte et la forme. Ou l'être en acte et la forme est la source de toute forme. Et c'est peut-être plus facile de regarder d'abord l'être en acte et la forme. Si je prends le point de vue de la forme, ça revient au même. Alors la forme, nous l'avons vu, c'est avant tout la qualité. Alors vous voyez la question très délicate. Hein, la qualité. Quand elle est parfaitement vécue, c'est ce qu'Aristote appelle l'entelekeia, la qualité. La qualité, je suis parfaitement qualifié quand j'ai atteint ma fin. Quand j'ai atteint ma fin dans une opération vitale, l'opération vitale me qualifie, je suis parfaitement qualifié quand j'ai atteint ma fin. Eh bien, quand j'ai atteint ma fin, cet état de perfection n'est pas l'être en acte. Il faut donc... C'est tout ça qui est impliqué quand je regarde le point de vue de la qualité. Comprendre que la qualité implique toujours une signification. La forme implique une signification. L'être en acte est d'une certaine manière au-delà de la signification. Alors ça, c'est très important. Ce qui montre bien que le problème philosophique de la signification est un problème premier, fondamental, mais n'est pas un problème ultime. Et c'est peut-être très important, si vous soulignez ça, de comprendre que de fait, l'être en acte est au-delà du problème de la forme. Alors, comment le montrer? C'est de montrer que justement, j'ai dépassé ce que représentent les états particuliers. Les états impliquent toujours une détermination. État de perfection, état d'imperfection. Ça implique toujours une manière d'être. Une manière d'être implique toujours une détermination. L'être en acte est saisi comme au-delà de ces états. Comme ce qui donne la... Vous voyez, je dirais, la signification dernière de ces états, c'est plus que la signification. Mon langage est toujours au niveau de la signification. C'est ça qui est terrible. Il faut se saisir en flagrant délit. N'est-ce pas ? Quand je dis que l'être en acte est ce qui est au-delà des états, et donc, d'une certaine manière, c'est plus le problème de la signification. Et pourtant, c'est ce qui est principe. Le principe est au-delà de la forme, est au-delà de la signification. Le principe est justement aussi fin. Et la fin, ce n'est pas premièrement la signification. Mais tout de suite, on touche l'acte comme quelque chose d'ultime. Ce n'est pas l'ordre de la signification en premier lieu. Difficile d'exprimer ça, à cause de notre pauvre langage. N'est-ce pas ? Notre langage est toujours au niveau de la signification. Alors, nous avions vu, au point de départ, que dans le jugement d'existence, ceci est. Le verbe être, du ceci est, est au-delà de la signification du ceci, ce qui est. Le ceci est de l'ordre de la signification. Et est au-dessus. Ce n'est plus de l'ordre de la signification. Puisque ceci peut exister, peut ne pas exister. Et donc le ceci, sujet de est, exprime bien la signification, mais il y a un dépassement de la signification, qui est le fait d'être. Kant a très bien saisi ça. Très bien saisi ça. Vous savez, quand il dit que c'est la même signification sans thalère, possible ou qui existe. C'est pas la même chose pour ma bourse. Pas tout à fait la même chose. 100 francs existants n'est pas la même chose que 100 francs possibles. Et au point de vue de la signification, c'est la même chose. Ça n'ajoute rien du tout. Il a saisi quelque chose qui est important et qui pour lui le déroute complètement. Parce que c'est très déroutant. Les formes a priori sont du côté de la signification. Il y a quelque chose qui est au-delà de la signification qui ne peut pas être une forme a priori. Je me heurte devant l'être en acte. L'être en acte est au-delà de toute signification. Alors évidemment, la tentation heideggerienne, si c'est au-delà de toutes les significations, c'est donc préconceptuel. Si c'est au-delà de toutes les significations, c'est donc négatif. C'est non signifiant. Si c'est non signifiant, c'est le rien. Vous voyez, c'est important de saisir ça, parce que c'est très important de saisir qu'après Kant, où on est devant la signification qui risque d'être identifiée à l'être, vous voyez, dans la mesure, je reviens toujours là-dessus, parce que c'est difficile et c'est important de saisir ça. C'est là où l'intelligence veut aller le plus loin possible dans son toucher à l'égard de la réalité. Si le possible, depuis Leibniz, égale l'être, hein, si le possible égale l'être, je crois que Heidegger n'a pas dépassé ça. Si le possible égale l'être, vous comprenez que la signification, elle est impliquée dans le possible. Le possible peut être ou ne pas être, mais sans talent. Ils peuvent exister ou pas exister, ils ont la même signification. Si donc être égale possible, être égale signification, le dépassement de la signification, c'est donc du non-être. C'est donc rien. Pour dépasser le problème de la signification, je suis obligé de dire rien. Et c'est à partir du rien que l'être apparaît. Entelekelia, dans le langage de Heidegger. Vous voyez, on comprend. On comprend la très grosse difficulté. Si vous n'avez pas dépassé le point de vue de Leibniz, si vous n'avez pas dépassé le point de vue du possible, si vous n'avez pas dépassé le domaine de la forme, parce que je pourrais faire le même raisonnement pour Platon, étant donné que l'être égale la forme, donc l'être égale la signification. Donc si l'être égale la signification, je suis coincé. Alors il faut arriver à comprendre, et c'est pour ça qu'il faut revenir au jugement d'existence. Il faut arriver à comprendre que l'intelligence, quand elle saisit ce qui est, saisit quelque chose qui est plus que la signification. Elle saisit le réel existant. Et le réel existant ne se ramène pas et ne peut pas se ramener à la signification. Et ce réel existant, je peux pousser jusqu'au bout pour saisir ce qu'il y a de propre dans ce réel existant, l'être en acte, qui est au-delà de la signification, donc au-delà de la forme. Ça, c'est très difficile à saisir, hein, pour mon intelligence, puisque saint Thomas nous dit que nous saisissons tout per modum quiditatis. Ah, vous voyez, c'est effrayant. Saint Thomas nous dit que nous saisissons tout par mode de quidité. Saint Thomas le dit, ça, c'est un des textes de saint Thomas qui revient constamment. Nous saisissons tout par mode de quidité. Donc nous saisissons tout par mode de signification, puisque la quidité est le fondement de la signification. Nous saisissons tout par mode de signification. Si nous saisissons tout par mode de signification, nous ne saisissons donc pas l'acte. Il n'y a donc pas saisi de l'acte. Mais saint Thomas dit en même temps « ratio actus ». Donc il y a une contradiction latente dans saint Thomas. Il faut saisir, c'est important, il faut saisir cette contradiction, puisqu'il parle de « ratio actus ». S'il parle de « ratio », il est donc au niveau de la quidité. Et s'il est au niveau de la quidité, il est au niveau de la forme. Et donc il prétend qu'il y a un concept qui saisit l'acte, contrairement à Heidegger. Vous voyez, dans le ciel, il doit se bagarrer entre les deux, en disant qu'il doit y avoir une ratio actus, et puis l'autre dit non, il n'y a pas, c'est impossible. Je ne peux pas saisir l'être avec un concept. Et je ne peux pas saisir l'être avec un concept parce que, de fait, j'ai tout ramené l'être à, j'ai du moins, le concept, c'est de l'ordre de la signification, et l'être est au-dessus. Il y a quelque chose dans l'être qui est au-dessus. Vous voyez comme c'est difficile, il faut saisir la difficulté. Il faut saisir la très grosse difficulté qu'il y a d'affirmer l'être en acte. C'est pas si commode que ça. Quand je l'ai saisi, de comprendre ce que ça signifie. Mais comprendre ce que ça signifie. Vous voyez bien, per modum quiditatis. J'ai toujours comme ça, toute mon intelligence est liée à ce per modum quiditatis. Qu'est-ce que ça signifie ? Donc je reviens toujours à la signification. Or, l'acte est quelque chose qui est au-delà de la signification. Alors on pourrait dire une supra-signification, quelque chose qui est au-delà de la signification, quelque chose qui est à l'origine de toute signification. Ah, ce serait peut-être ça qui nous aiderait à comprendre ce que c'est que l'acte. En effet, quand je prends ceci est, je vois bien que le ceci prend toute sa signification par le verbe être. Et n'ajoute rien à la signification, et pourtant toute la signification est actuée par le point de vue d'être. Il faut donc saisir que l'intelligence est capable de dépasser la signification en saisissant l'être, et que l'être en acte veut montrer ce dépassement de la quidité, de la forme, de la signification, et que je saisis dans la réalité quelque chose qui est au-delà de la signification. Vous voyez, par là, tout le rationalisme dégringole. Tout le rationalisme dégringole. Je vois que la métaphysique est au-delà du rationalisme. Parce que le rationalisme, c'est s'enfermer dans la signification. Et c'est de faire de la signification un absolu. Eh bien, la signification n'est pas un absolu. La vie de l'intelligence dépasse ce domaine de la signification pour saisir ce qui est en acte. Elle saisit ce qui est en acte. Alors, c'est pour ça que je bredouille, hein, parce que mon langage est toujours au niveau de la signification. Mais ma métaphysique n'est pas enfermée dans mon langage. Ma pensée est au-delà du langage. Et c'est quand même exprimé dans le jugement d'existence. Et je reviens à ce que je vous avais dit au début. Dans la philosophie analytique, le ceci est et le ceci sont identifiés. Pas la peine d'aller plus loin. Une fois qu'on a compris ça, on a tout saisi. Le ceci est, et c'est du Kant, sont à l'air, existent ou peuvent exister. Je reste au niveau de la signification. Et la philosophie analytique ne saisit rien de plus que la signification. Et même, il faudra voir, dans la signification, elle restera à un certain niveau. Mais c'est très important de voir qu'on ne saisit rien de plus. Pouvoir dire, hein, mais fortement, ceci est. Ou ceci, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que mon intelligence s'enferme dans le ceci, et que le réel que j'atteins en affirmant ceci est, n'a rien à me dire. Donc la réalité existante, c'est uniquement ce que je pense de la réalité existante qui m'intéresse. Ce que je pense de la réalité existante, ce que je saisis de la réalité existante, c'est la seule chose qui m'intéresse. Tandis que je dis au point de vue métaphysique, ce qui m'intéresse, c'est la réalité existante plus que ce que je pense d'elle. Vous voyez, l'anti-métaphysique. L'anti-métaphysique, c'est s'enfermer dans ceci. C'est donc s'enfermer dans la signification. Et ne pas accepter qu'il y a quelque chose qui est au-dessus. Et qui est évidemment très difficile à exprimer. Et quand Satama parle de ratio actus, il veut montrer que mon intelligence accepte qu'il y a quelque chose qui est au-delà de la signification, qui est au-delà de la forme, et que ce quelque chose qui est au-delà de la forme, mon intelligence est capable encore de le saisir. Et que mon intelligence est capable de le penser. Et donc je peux penser l'être en art. Et je pense l'être en acte comme étant l'ultime effort de mon intelligence qui dépasse ma raison et qui est en contact direct avec ce qui est. Et quand mon intelligence est en contact direct avec ce qui est, mon intelligence pense. Elle pense en acceptant d'être dépassée par ce qui est, par la réalité existante. Tandis que tant que mon intelligence reste dans le ceci, mon intelligence reste enfermée en elle-même et n'accepte pas ce dépassement. Alors, ce dépassement qui justement consiste à saisir ce qui est comme acte, mon intelligence à ce moment-là exprime, elle touche quelque chose de la réalité qui n'est plus de l'ordre de la signification, qui est la réalité en tant qu'elle mesure mon intelligence, qui est la réalité en tant qu'elle est autre que mon intelligence, et que dans cette réalité qui est autre que mon intelligence, il y a quelque chose d'irréductible à ce que j'ai saisi de cette réalité. Et c'est très très important de saisir ça, parce qu'à partir de là, nous comprenons que la science est toujours dépassée par la réalité. Que la philosophie est toujours dépassée par la réalité. Et donc ma philosophie est au service de l'homme et non pas l'inverse. Mais il faut aller jusque-là. Alors à ce moment-là, je comprends qu'en effet, la forme est bien une modalité de l'être, mais ce n'est pas l'être dans toute son explicitation d'être. L'être dans toute son explicitation d'être, c'est l'être en acte. Et l'être en acte cloue mon bec. C'est ça, exactement. L'être en acte m'exige de me mettre dans le silence. C'est extraordinaire, ça. L'être en acte, la réalité qui existe, en tant qu'elle existe, elle exige de moi de comprendre que je touche cette réalité, que je l'atteins, c'est sûr, mais je ne peux plus signifier cette réalité. Je ne peux plus que l'exprimer dans un jugement d'existence. J'exprime ça. Alors peut-être c'est là où vous voyez, c'est très difficile de trouver une expression, n'est-ce pas, de voir le dépassement de la signification. Et tout le problème est là, pour essayer d'exprimer ce dépassement de la signification. Alors oui, je suis très très loin de la définition là. Et je vois bien que la définition, c'est très très bien, c'est très intéressant, mais quand même, hein, y a des choses qui ne se définissent pas, et c'est la chose principale. J'avais déjà vu ça pour l'individu, et je le vois encore beaucoup plus quand il s'agit de l'acte. Il y a quelque chose que j'atteins de la réalité, que j'exprime, mais que je ne peux pas définir. Je suis donc dans une super signification, qui est le toucher de l'intelligence à l'égard de ce qui est, et qui se donne dans le jugement d'existence. Quand je dis ceci est, je veux dire quelque chose de plus que ceci, uniquement. Je veux exprimer ce lien qui s'est réalisé entre mon intelligence et la réalité existante. Eh bien, l'être en acte thématise ce toucher. Exprime ce toucher. Exprime comment l'intelligence est capable de dépasser son mode rationnel, est capable de dépasser son mode habituel de signification, et que mon intelligence est faite en premier lieu pour atteindre la réalité. Et donc si elle est faite en premier lieu pour atteindre la réalité, elle sera donc en premier lieu faite pour contempler cette réalité quand elle est capable de captiver mon intelligence et d'être source pour moi de contemplation. Vous comprenez que si je reste uniquement dans le ceci, je ne comprendrai pas comment la contemplation puisse exister. Je dirais la contemplation, c'est du sentiment. C'est le fait de saisir l'être en acte qui me permet de comprendre que la contemplation peut être encore une activité intellectuelle. Et que mon intelligence dépasse le ceci, la signification, les définitions, et qu'elle est en contact direct avec la réalité. C'est pour ça que c'est si important. Donc, premier dépassement, hein, plus difficile. Deuxième dépassement, arriver à comprendre que l'acte n'est pas seulement l'exercice.
Ça se tient, du reste. Hein.
Une fois que j'ai compris que l'être en acte dépasse tout le point de vue de la forme, il faut défendre l'exercice. Autrement dit, comprendre que Leibniz n'a pas saisi l'être en acte. Leibniz a dit que l'être en acte, c'est l'énergie, c'est l'exercice, c'est l'efficacité. Ce qui existerait assez dans le néoplatonisme. Dans le néoplatonisme, l'acte, c'est l'exercice. C'est le passage de l'un au nous. C'est le passage du nous à l'âme. Les énergies, les énergrias. Alors, ces énergies sont des énergies de Dieu, ou ces énergies sont les énergies de mon âme. Mais c'est identifier l'être en acte à l'énergie. Je ne parle pas au niveau physique. Hein. Je parle de façon plus générale. Mais c'est des énergies. L'énergie, le point de vue de l'efficience. Vous voyez, identifier efficience, énergie, exercice à l'être en acte. Eh bien, il s'agit de comprendre que l'être en acte est plus au-delà de l'efficience, au-delà de l'énergie, au-delà de l'exercice. C'est quelque chose de plus. Alors, là aussi, très difficile. C'est que énergie, efficience, exercice demeure toujours lié au devenir. tandis que l'être en acte est au-delà du devenir. C'est ce qu'est l'ultime, ce qu'est le dernier. Nous reviendrons demain un instant là-dessus.